Radio Prague, les informations.
Bienvenue sur Radio Prague. Le vice-premier ministre israélien Dan Meridor a effectué une visite à Prague. Le ministère de la Santé et les médecins se sont mis d'accord sur un mémorandum qui doit empêcher le départ massif des médecins hospitaliers. La croissance tchèque a atteint 2,3% en 2010. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou devrait se rendre début avril dans la capitale tchèque. Le ministre tchèque des Affaires étrangères, Karel Schwarzenberg, l'a annoncé à l'issue de son entretien ce mardi à Prague avec le vice-premier ministre israélien et ministre chargé des services de renseignement et de l'énergie atomique Dan Meridor. Ce sera une opportunité unique, une visite historique, a déclaré Dan Meridor. Selon les diplomates tchèques, ce sera la première visite en République tchèque d'un chef du gouvernement israélien. En visite à Prague, le vice-premier ministre israélien Dan Meridor a rencontré les ministres tchèques des Affaires étrangères et de la Défense. Ils ont discuté, entre autres, de la situation en Égypte. Le ministre de la Santé, Leos Hegre, et le représentant de la Chambre des médecins se sont mis d'accord sur un mémorandum qui doit empêcher l'exode massif des médecins mécontents de leurs conditions salariales. Le gouvernement et les syndicats doivent toutefois encore approuver cet accord. Ce dernier garantit aux médecins tchèques hospitaliers une augmentation de salaire de 5 000 à 8 000 couronnes, entre 10 et 16%. Le ministre a également promis une hausse des salaires annuels à l'avenir afin d'atteindre les 70 000 couronne brute par mois, soit un montant qui correspond aux revendications des syndicats. Nous vous en dirons plus dans Fais événements en République tchèque. Le produit intérieur brut de la République tchèque a augmenté de 2,3% en 2010 en données corrigées des variations saisonnières après un recul de 4,1% en 2009 selon une première estimation publiée mardi à Prague. La croissance de l'économie a été surtout tirée par une amélioration de la performance de l'industrie et des services principalement au second semestre, a indiqué l'Office national des statistiques. Le ministre tchèque des Affaires étrangères, Karel Schwarzenberg, et l'ex-président Václav Havel ont soutenu ce mardi à Prague, lors d'une conférence internationale, la lutte pour la démocratie en Birmanie. La conférence ayant pour thème la position européenne à l'égard de la Birmanie, où s'étaient tenues à l'automne 2010 les premières élections législatives depuis 20 ans, a réuni plusieurs hommes politiques tchèques, ainsi que les représentants des pays membres de l'Union européenne et des ONG. Le chef de la diplomatie, Karel Schwarzenberg, a déclaré que la République tchèque allait continuer à lancer un appel en faveur de l'observation des droits de l'homme en Birmanie, tout en souhaitant que l'Union européenne agisse dans ce domaine. D'après Václav Havel, le processus d'intégration économique ne s'accompagne pas d'une intégration au niveau des droits et libertés fondamentaux. Un mot de tennis, c'est à la surprise générale que la Tchèque Petra Kvitová, qui vient de remporter l'Open Gaz de France-Suez de Paris face à la numéro 1 mondiale Kim Clijsters, s'est fait sortir dès le premier tour du tournoi WTA de Dubaï par la japonaise Ayumi Morita, classée au 58e rang mondial, 7-6-7-6. Une vraie contre-performance pour la Tchèque qui n'a pas réussi à remporter les jeux décisifs, encore très fatiguée physiquement par son tournoi en France la semaine précédente. Côté météo, mercredi, jour de fête des Ljuba en République tchèque. Le temps sera nuageux à couvert sur la majorité du territoire. Les températures oscilleront entre moins 1 et 3 degrés pour les maximales. C'était les informations de Radio Prague par Magdalena Hrozinková.
Fais événements en République tchèque.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission. Merci, on s'en va. Vous le savez, c'est le nom de la campagne menée par les médecins hospitaliers contre leurs conditions salariales. Après des semaines de bras de fer, il semble que la Chambre des médecins ait trouvé un accord avec son ministère de tutelle. Reste encore à convaincre le gouvernement. Les policiers, eux aussi, sont mécontents et le font savoir. Nous vous en dirons plus. Le Musée national des techniques rouvre ses portes au public après plus de 4 années de fermeture. Visite guidée avant de passer à la rubrique Panorama consacrée aujourd'hui au travail de recherche sur les tziganes en République tchèque mené par un jeune chercheur français. Bonne écoute de ce programme. Merci, on reste. Les médecins hospitaliers vont-ils finalement rester en poste? Une issue pourrait enfin avoir été trouvée à la crise qui frappe le secteur de la santé tchèque depuis plusieurs mois. Le ministre de la Santé, Leos Heger, et les représentants de la Chambre des médecins ont sont en effet parvenus à un accord sur un mémorandum qui doit permettre d'empêcher un exode massif des médecins mécontents de leurs conditions salariales. Le gouvernement et les syndicats régionaux doivent toutefois encore approuver ce mémorandum, auquel cas les médecins le signeront et retireront leur démission remise dans le cadre du mouvement de protestation « Merci, on s'en va ». Guillaume Narguet.
L'accord trouvé lundi garantit aux médecins hospitaliers tchèques une augmentation de leur salaire de 5 à 8 000 couronnes, soit entre 10 et 16% de leurs revenus actuels. Le ministre a également promis une hausse annuelle de salaire à l'avenir afin d'atteindre le montant brut de 70 000 couronnes par mois, une somme correspondant aux revendications des syndicats. Toutefois, la rallonge de 2 milliards de couronnes promise par le ministre, Léo Scheger, pour cette année sera partagée différemment que ce qui était initialement prévu.
L'argent sera distribué selon le nombre de médecins dans les différents hôpitaux. Cette solution avantagera les hôpitaux de petite taille par rapport aux plus grands, où la part des frais de matériel est plus importante que les frais salariaux.
De son côté, le président de la Chambre des médecins, Milan Kubek, estime que l'accord trouvé ne satisfait aucune des deux parties. Les médecins réclamaient en effet une augmentation de leur salaire de 8 000 à 12 000 couronnes. Pour autant, Milan Kubek appelle les médecins à accepter le compromis trouvé.
La principale avancée concerne les conditions de travail. Les médecins ne seront plus des esclaves comme ils l'étaient jusqu'à présent. Le nombre d'heures supplémentaires sera limité. Les salaires vont malgré tout augmenter et les médecins ne seront plus aussi dépendants des heures supplémentaires qu'ils accomplissent. Le gouvernement s'est engagé à collaborer avec la représentation de l'ordre médical sur la réforme de la santé.
Reste désormais à savoir si les médecins eux-mêmes accepteront ce compromis. Environ 3800 d'entre eux avaient remis leur démission en fin d'année dernière et ils devraient se prononcer dans les prochains jours. En attendant, le ministre de la Santé se veut cependant optimiste en assurant qu'à partir de 2013 et avec la réforme envisagée du système de santé, le montant des salaires des médecins hospitaliers devrait être de une fois et demie à trois fois supérieur au montant du salaire mensuel moyen dans l'ensemble du pays, objectif déclaré des médecins au moment du lancement de leur mouvement de protestation.
Les membres des forces de sécurité ont lancé ce mardi une pétition réclamant la démission du ministre de l'Intérieur, Radekian. Selon l'Union syndicale indépendante de la police de la République tchèque, qui récolte les signatures, Radekian n'a pas assuré de fonds suffisants pour la profession. Les salaires de certains policiers et pompiers auraient baissé de 10% en début d'année. Ali Modine Ousmani.
La récolte de signatures devrait durer jusqu'au 15 mars selon Milan Štěpánek, président de l'Union syndicale indépendante de la police. Ce dernier a encouragé les policiers, pompiers et civils travaillant au ministère de l'Intérieur à signer cette pétition dirigée contre Radekian et a appelé à ne pas craindre de la signer. Il s'explique plus précisément sur les doléances formulées à l'encontre du ministre.
Nous lui reprochons les répercussions sur les salaires des policiers, sur le fonctionnement de la police ainsi que sur les investissements. Nous lui reprochons également le fait qu'il souhaite le départ du plus grand nombre de policiers possible, le licenciement de certains collaborateurs civils, le traitement du dossier et son attitude envers les policiers, les pompiers et les collaborateurs civils.
À propos des actions qui seront entreprises par le syndicat, Milan Štěpánek s'explique et fait une différence avec le mouvement mené ces derniers mois par les médecins hospitaliers.
Nous débutons avec cette action et ne voulons pas anticiper l'ampleur du mouvement. Notre but premier est de récolter le plus grand nombre de signatures possibles. Notre pétition est dirigée à l'encontre du Premier ministre afin qu'il révoque son ministre de l'Intérieur. Pour l'instant, nous ne souhaitons pas faire comme les médecins, nous souhaitons rester et servir.
Le ministre ciblé, Radekian, se défend en mettant en avant les nombreux avantages dont bénéficient les policiers selon lui.
Il faut que je rappelle que les policiers ont des avantages. Leurs primes de fin de carrière sont nettes d'impôts, ce qui coûte aux contribuables 3,75 milliards de couronnes cette année. Ils ont plus de congés et un tiers d'entre eux verra son salaire automatiquement augmenter cette année.
« Le bras de fer semble donc engagé entre le ministre et le syndicat, qui campent tous les deux sur leur position. Reste à savoir quelle sera l'attitude de la classe politique face à cette fronde, et si le chef du gouvernement décidera de soutenir jusqu'au bout son ministre de l'Intérieur.
Après 4 années de fermeture pour travaux, le Musée national des techniques rouvre ses portes ces mardis et mercredis. Le tout premier véhicule incendie à cheval datant de 1735, la toute première automobile à avoir été mise en marche en pays tchèque, ou encore le premier avion tchèque à avoir effectué un vol au-dessus du territoire, telles sont quelques-unes des machines à voir au Musée national des techniques de Prague situé sur la plaine de l'Etna. Le bâtiment construit dans les années 30 rouvre ses portes au public après 4 années de travaux, comme l'explique le directeur Karel Xander.
Son histoire remonte aux années 30, où les plans ont été dessinés par un grand architecte. Malheureusement, la guerre a commencé et on a commencé à faire des économies sur le bâtiment qui n'a pas été fini comme prévu. En outre, il a été réquisitionné par les nazis, donc le musée n'ouvrira ses portes qu'en 1949, mais avec des expositions qui n'avaient guère de lien avec le but d'origine, mais aussi des administrations diverses qui ont siégé là jusque dans les années 90. Ce n'est qu'à cette époque que le bâtiment a retrouvé enfin sa fonction première.
Les premières expositions préparées à l'occasion de la réouverture du musée concernent l'histoire des transports, de l'architecture et du design, de l'imprimerie, mais aussi de l'astronomie et de l'informatique. Enfin, un atelier photographique retrace l'évolution de cette technique. Le grand hall central, impressionnant par ses dimensions et éclairé par une verrière, abrite des dizaines de machines, d'automobiles, une montgolfière, une locomotive, des aéronefs, des motos, des vélos. Certains de ces objets pourront même être touchés par les visiteurs, comme le précise Karel Xander.
Bien sûr, les gens pourront toucher les objets, mais pas tous, parce que nombre d'entre eux ont une grande valeur. Nous avons ici des objets qui suscitent l'envie dans le monde entier, comme la plus vieille voiture Bugatti, ou la plus vieille Audi, ou encore le sextant utilisé par Johannes Kepler lui-même. Ce sont des objets que nous ne pouvons laisser toucher, mais il y a assez d'éléments interactifs. Dans le grand hall, il y a une locomotive industrielle dans laquelle les visiteurs pourront monter. Il y a aussi une moto des gardes du château. C'est une BMW sur laquelle les enfants pourront monter comme s'ils escortaient le président de la République.
Grâce aux travaux réalisés, de nombreux objets ont pu être ressortis des dépôts et sont désormais visibles du grand public. Par contre, toute la partie consacrée à l'histoire et à l'évolution des techniques ferroviaires sera exposée dans le futur musée du chemin de fer prévu dans la gare Masaryk. Autre projet en vue, à terme, rendre accessibles les toits du musée national des techniques, comme l'explique encore Karel Xander.
Le panorama devrait être réalisé l'an prochain. Ce sera en fait une façon de compléter l'exposition consacrée à l'architecture et à la construction. Parce que depuis les toits du Musée national des techniques, je dois dire qu'on voit parfaitement le modèle de Langweil, mais en vrai. C'est-à-dire tout le centre historique de Prague, depuis Hradčany jusqu'au quartier de Vysočany. C'est une vue inhabituelle et donc un panorama architectural unique.
Plus d'informations sur le Musée national des techniques, c'est au www.ntm.cz. C'est la fin des faits et événements. Tout de suite, la deuxième partie du programme. Mathieu Plessia est un jeune chercheur français qui vient de publier 2 tomes de son livre intitulé « Les Tziganes » aux éditions de l'Harmattan en France. Un livre tiré de la thèse de sociologie qu'il a rédigée en réalisant des enquêtes en République tchèque. Alors, pourquoi la République tchèque? C'est une des questions que lui a posé Alexis Rosenzweig dans cette nouvelle rubrique « Panorama ».
Panorama.
Panorama.
Mathieu Plessia, bonjour. Vous venez de publier en France, aux éditions de l'Harmattan, 2 tomes d'un livre qui, je crois, est tiré de votre thèse de sociologie réalisée ici. Nous sommes au CEFRES de Prague. Est-ce que on peut parler d'abord de l'idée de départ? Comment Est-ce que vous est venue l'idée de travailler sur ce sujet, sur les Tziganes, peut-être en Europe centrale en général, et puis plus spécifiquement, on en parlera après, en République tchèque?
Alors c'est surtout lié à mon parcours personnel, et en fait l'idée m'est venue lors d'un séjour Erasmus en Espagne, en Andalousie. Et c'est à ce moment-là, en fait, que j'ai compris, je me suis intéressé en passant par le folklore gitan. Je me suis aperçu qu'il y avait cette ambiguïté entre à la fois le faire-valoir pour l'Andalousie du folklore, tout en ayant ce deuxième aspect qui est celui des Tziganes considérés comme des parasites pour la société espagnole. Donc c'est cette ambiguïté-là qui m'a intéressé dès le début, à la fois les gitans faire-valoir et les gitans considérés comme les parasites de la société qui m'a intéressé. En rentrant en France, à l'occasion d'une maîtrise et d'un DEA à l'époque, je me suis intéressé à la question des aires de stationnement des gens du voyage. Et c'est l'aspect terminologique des dénominations, puisqu'on les considérait, c'était les gens du voyage, qui m'a surtout intéressé au début.
C'est l'enjeu du premier tome, et peut-être des premiers chapitres de votre thèse, en tout cas du premier tome de ce livre, qui, si je me souviens bien, s'appelle donc « Les Tziganes, entre nation et négation », c'est-à-dire définir, la difficulté de définir ce qu'est un Tzigane.
Voilà, donc je me suis intéressé en allant dans l'optique d'une thèse cette fois-ci, donc c'est-à-dire une recherche beaucoup plus approfondie, c'est-à-dire de m'intéresser au positionnement des acteurs qui tentent en effet de définir ce qu'on appelait, bon, dans le cadre de l'Europe centrale jusqu'en 89, les citoyens d'origine tzigane. Méthodologiquement, la difficulté consistait à savoir qui est tzigane, de qui ne l'est pas. Question qui, d'un point de vue sociologique, scientifique, pose vraiment problème, puisque les critères objectifs font défaut. Et je me suis intéressé, j'ai fait le choix de m'intéresser, en fait, à celui qui parle des Tziganes, ceux qui en parlent, avant tout. Ce qui m'a permis, en étudiant les acteurs qui se positionnent sur cette question-là, d'identifier des positions qui se sont révélées finalement antagonistes, c'est-à-dire opposées, finalement très polarisées, entre ceux qui prétendent qu'il y a un groupe, une communauté tzigane homogène, et ceux qui, au contraire, la nient. D'où la question, les tziganes, entre nation et négation.
Vous parliez d'Andalousie, après de France. Qu'est-ce qui vous a amené ici, jusqu'à Prague, pour travailler sur ce sujet?
Il est apparu que la République tchèque constitue un laboratoire sociologique particulièrement intéressant, puisque il est possible d'apprécier en République tchèque la mise en place, en un court intervalle d'une décennie, la mise en place de deux politiques d'intégration. Et s'agissant d'intégration, il est on oppose d'ordinaire deux types de modèles, deux types de politiques d'intégration, qui est le modèle multiculturel, c'est-à-dire on valorise une communauté. Et en valorisant cette communauté, on constitue donc une forme d'intégration, ou l'intégration dite républicaine, c'est-à-dire à la française, où on privilégie les individus qu'il s'agit d'intégrer à la société individuellement. Et la République tchèque, en une décennie, a mis en place ces deux modèles alternativement.
On parle surtout en République tchèque des ce qu'on appelle en tchèque les sociální vyloučení, c'est-à-dire les exclus sociaux, avec notamment le référencement ou la délimitation géographique de localités socialement exclues. Alors, l'étude commandée par le gouvernement a dénombré plus de 300, si je me souviens bien. Et vous, dans votre travail pour votre thèse, vous avez réalisé des entretiens, des enquêtes sociologiques dans ce genre de localité, et notamment à Kladno, donc pas loin de Prague. Pourquoi ce choix, et est-ce que ça a été difficile de réaliser ces entretiens?
Alors, la République tchèque était donc intéressant en ceci que, dans les années 90, on a pu observer donc la mise en place d'une politique multiculturelle, surtout à la suite des scandales des exodes roms au Canada et en Angleterre, qui a donné lieu au rapport Bratinka. Donc, des mises en place de politiques multiculturelles, avec des mises en place de porte-parole, d'élites roms, une politique de quotas aussi également. Puis, suite À l'accession de la République tchèque à l'Union européenne, on observe cette fois-ci un basculement, une critique tout d'abord de cette politique multiculturelle et cette fois-ci la mise en œuvre d'une politique d'intégration sociale.
Une critique parce que un constat d'échec de la politique multiculturelle ?
Un constat d'échec, oui, parce que, en effet, les porte-paroles, il y a eu des affaires de scandale des élites. Mais plus que ça, je pense que la critique est venue avant tout d'anthropologues de l'école de Pilsen, qui ont critiqué radicalement l'aspect construit de la nation, les contradictions qu'on pouvait observer entre les idées et la réalité du terrain, la pauvreté, et surtout que je crois que la République tchèque, et comme les principaux pays, ne sont pas pour une politique qui favorise les communautés et donc la relation entre l'État et les citoyens. Ils ne sont pas pour un intermédiaire. Et puis, il faut aussi noter que la stratégie de Lisbonne va dans le sens de la lutte contre l'exclusion sociale, et donc une lecture de la pauvreté, de la discrimination et de la marginalisation en termes d'exclusion sociale et non plus en termes ethniques. C'est ça, en fait, les deux variables qui sont utilisées. Dans les années 90, on a des variables culturelles et politiques. À partir de 2004, à partir des années 2000, un basculement vers des variables, cette fois-ci, sociales et économiques. On ne considère plus la communauté rome, on considère désormais les individus exclus socialement. L'objectif donc de mon enquête consistait à observer en République tchèque la mise en place de ces deux politiques d'intégration, le multiculturalisme et la politique de lutte contre l'exclusion sociale, de déterminer en effet des acteurs qui défendent ces positions et de voir comment des solutions sont envisagées et d'observer leurs applications concrètes sur le terrain pour saisir comment les acteurs concernés par ces politiques, d'une part la minorité, une minorité rome, d'autre part les individus exclus socialement, comment ces personnes réagissent à ces dispositifs pour enfin envisager éventuellement une piste nouvelle, une troisième voie éventuellement dans les réactions de ces acteurs.
Pourquoi Kladno donc ?
Concernant donc la politique d'intégration sociale, la lutte contre l'exclusion sociale, donc en effet une étude commanditée par le ministère des Affaires sociales, financée par le Fonds sociaux européen et conduite donc par le cabinet de sociologie Gabal, avait évalué environ 300 localités dites d'exclusion sociale. Il s'agissait donc, dans une de mes enquêtes, de me rendre dans une de ces localités d'exclusion pour observer comment les habitants de ces espaces interagissent et réagissent dans ces espaces contraignants et en effet poser la question de l'identité. Kladno se présentait comme une localité particulièrement intéressante puisque à proximité de Prague, Kladno présentait 5 localités dans sa ville, ce qui était finalement un assez grand nombre comparativement aux autres villes de République tchèque.
5 localités socialement exclues, comme le décrivait le rapport.
Tout à fait, oui. Et avec des taux de concentration, toujours selon le rapport, très élevés. J'avais aussi entendu parler des affaires du Maso Combinat, donc il y avait un intérêt sociologique très intéressant à se rendre là-bas pour conduire des enquêtes.
Maso Combinat, une ancienne fabrique, une ancienne usine de traitement de viande où ont été aménagés des logements assez insalubres où habite une forte concentration de la population rome. Ça a été difficile, ces entretiens, d'aller et de faire parler ces gens de leur situation ?
C'était... Bon, quand il s'agit de faire une enquête de terrain dans ce type d'espace, on prévoit déjà une enquête sur le long terme. Les enquêtes ont duré 7-8 mois, où il s'agissait de se rendre le plus souvent possible. Il y a aussi un aspect déontologique, il y a un aspect éthique, il y a une préparation des entretiens. On passe généralement par des intermédiaires, des personnes qui ont l'habitude de fréquenter ces endroits. Il y a aussi la question du positionnement du chercheur à l'intérieur de ces espaces, la question de l'observation, de l'interprétation, les affinités qu'on peut avoir avec les habitants, nos interlocuteurs, la question du rôle du sociologue qui n'est pas toujours facile puisqu'en tant qu'étranger j'étais régulièrement interpellé sur la misère sociale. Il y a aussi la question de la violence sociale au quotidien de ces personnes. Ça fait partie du métier de sociologue d'observer, de récolter le discours de ces personnes, de le retranscrire dans un livre, de le communiquer et passer aussi continuer son chemin malheureusement.
C'était le chercheur français Mathieu Plaisia qui parlera plus en détail de ses enquêtes menées auprès des Roms à Kladno la semaine prochaine dans l'émission Panorama. C'est la fin des émissions en français de Radio Prague. Merci de votre fidélité. À bientôt. Ahoy.